France Culture.
Les nuits de France Culture.
Étrange destin que celui de Bao Dai. Un nom presque oublié à notre époque, et pourtant indissociable de l'histoire de la décolonisation de l'Indochine. Empereur du Vietnam et artisan de son indépendance pendant l'occupation japonaise, il fut ballotté entre les mouvements contraires de l'histoire avant d'être contraint de se retirer de la vie publique après les accords de Genève en 1954. C'est Bao Dai lui-même qui prend la parole au micro de Patrice Gélinet pour revenir dans un numéro de Mémoire du siècle sur les événements qui ont marqué sa vie et décidé de l'histoire du Vietnam. C'était le 26 août 1991.
Mémoire du siècle, Bao Dai. En vietnamien, Bao Dai veut dire protecteur de la grandeur. C'est le nom de règne choisi par le dernier empereur d'Annam lorsqu'en 1926, à l'âge de 12 ans, il montait sur le trône. Il devenait fils du ciel, à la fois Dieu et père d'un peuple colonisé par la France et qui allait subir la guerre la plus longue du XXe siècle. Une guerre dans laquelle allait sombrer une des plus vieilles dynasties du monde, la dynastie des Nguyen, qui régnait sur le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Son dernier représentant, Bao Dai, est né en 1913 dans l'enceinte de la cité interdite de Hue, où il est resté cloîtré pendant les 9 premières années de sa vie.
À l'âge de 5 ans, on m'a séparé de ma mère et on m'a mis dans un palais affecté au futur prince héritier, ce qu'on appelle à l'époque le palais de l'Est. Et là, un vieux lettré, sévère, s'est occupé de mon éducation. D'apprendre dans le texte Confucius, le livre de la sagesse, etc. Il m'a donné une éducation de prince, c'est-à-dire une éducation assez sévère, où je dois taire tous mes sentiments, de ne pas être capricieux, de ne pas me mettre en colère, et être impassible devant tous les événements.
Impassible, c'est souvent ce que beaucoup de gens ont remarqué en vous rencontrant. Vous dites que jamais, je crois, vous n'avez éprouvé le moindre chagrin, ni même...
Ça fait partie de mon éducation de futur empereur.
Et vous n'avez jamais, si je puis dire, failli à cela? Je veux dire, par là, il y a des
émotions?
Non,
j'ai même... Par la suite, ça m'a beaucoup servi, justement, cette éducation-là.
Vous parlez même d'un véritable conditionnement dans votre jeunesse?
Oui, j'ai parlé même d'un lavage de cœur, si vous voulez. C'est le terme qui convient, parce que pour un futur empereur, il ne doit pas montrer de passion, si vous voulez.
Et donc, ces passions ne vous ont jamais effleuré, même à des moments pénibles, douloureux de votre existence?
Non, ça m'a permis de surmonter pas mal de difficultés dans ma vie.
Vous êtes le fils de l'empereur Kaidin, pour lequel vous éprouvez une admiration que vous impose son caractère sacré. Un empereur, c'est un dieu vivant, c'est le fils du ciel. Est-ce que vous pourriez nous préciser cette notion?
Oui, d'ailleurs, c'est tout naturel chez nous, parce que pour nous, l'empereur, c'est le fils du ciel, pour qui nous devons tous aussi bien ses propres enfants que ses sujets. Le plus grand respect. C'est-à-dire, mon père me suivait mon éducation, mais moi-même, j'allais le voir que quand il me convoquait. C'est pas un père normal qui, comme tous les pères.
l'Empire d'Annam, à ce moment-là, et donc est une théocratie, en quelque sorte.
Oui, c'est exactement le même système que l'Empire de Chine.
Et vous pensez qu'un pays moderne peut, en même temps, être une théocratie, être gouverné par quelqu'un qui est à la fois un souverain spirituel ?
Ce n'est pas, comme vous dites, une autocratie. L'empereur gouverne, mais il ne gouverne pas seul. Il y avait la cour, qui était une espèce de parlement, si vous voulez, chez nous. Et l'empereur prenait décision sur le conseil de la cour.
L'étiquette de la cour impériale est tout de même très rigide. Elle impose, par exemple, à l'empereur de ne jamais se lever de son trône tant que ses sujets sont prosternés devant lui. Et il y a même une légende qui dit, je crois, qu'un empereur a ainsi été tué par la cour, qui s'est débarrassé de lui en profitant de cette règle.
C'est à l'époque où l'empereur, c'est-à-dire la cour, ne voulait plus de l'empereur. Et du fait que l'empereur étant sur son trône, et que toute la cour était agenouillée, c'est-à-dire prosternée, l'empereur ne pouvait pas bouger de sa place. Et tous les mandarins, tous les ministres étaient restés pendant des heures, des journées, et même des semaines, jusqu'à l'épuisement. C'est ainsi que l'empereur épuisé est mort sur son trône.
Parce qu'il n'avait pas le droit, effectivement.
Et il n'avait pas le droit, tant que tous ses sujets sont devant lui, de quitter son trône.
Et vous supportiez bien l'étiquette qui était très rigide, justement, c'est ce qui vous était imposé à vous.
Ah oui, j'étais éduqué pour ce métier.
Ce métier de souverain, donc. Quel était dans cette petite enfance pendant laquelle vous avez été cloîtré, donc dans la cité interdite, l'empereur de Chine aussi, c'était en Asie, c'est ce qui se passait. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont particulièrement marqué dans ces 9 premières années de votre vie ?
Le plus grand souvenir pour moi, c'était mon voyage en France. Un jour, mon père m'a fait venir. Il m'a dit, voilà, je suis invité à aller en France et je vous emmène avec moi. Il m'a dit également que je n'étais pas le premier à faire le voyage en France. Il y avait bien avant moi un de mes ancêtres qui s'appelait le prince Khan, qui était le fils de l'empereur Jialong, celui qui devait faire l'unité de notre pays, a envoyé son fils en France. Il avait le même âge que moi, auprès de la cour de Versailles, du temps de Louis XVI, pour demander l'aide et l'assistance de la cour de France pour la cour d'Annam. Et c'est comme ça que j'ai accompagné mon père en France, ça doit être dans les années 1922.
Cette découverte de la France, Sire, que vous découvrez finalement avant même de découvrir votre propre pays, quel effet cela a-t-il provoqué en vous, qui sortiez donc de la cité interdite ?
Oui, c'était pour moi une grande découverte, car c'était la première fois que je sortais du palais. Et le fait de prendre le train jusqu'à Touraine, d'embarquer sur un bateau jusqu'à Marseille, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et une fois arrivé à Paris, mon père a été reçu à la gare du Bois de Boulogne, et nous avons remonté à l'époque l'avenue du Bois, qui est devenue l'avenue Fauch, et c'était pour moi une espèce d'enchantement. Une fois en France, ma vie de prince a complètement changé. J'étais devenu un enfant normal, c'est-à-dire connaissant les jouets, me promenant, puisque j'habitais près du Champ de Mars. Et à ce moment-là, mon père m'avait confié au gouverneur Charles et à son épouse, qui ont été mes précepteurs. J'ai commencé par mes études, et j'ai fréquenté le cours Atmer, et plus tard le lycée, et ensuite j'ai fait les Sciences Po.
Et vous faisiez, je crois, aussi beaucoup de sport.
Je fais beaucoup de tennis, et comme vous me rappelez, j'étais champion de France scolaire. J'ai eu le plaisir de me trouver en finale avec le président Chaban de Lemmas. Et j'en ai gardé un très bon souvenir de lui, d'ailleurs.
Et vous l'avez battu, c'est pas indiscret ?
Je crois bien. Le sport qui m'a le plus enthousiasmé, c'est l'équitation. Car à l'âge de 15 ans, on m'a mis à l'école de guerre, où se trouvait le cadre noir. Et là, j'étais éduqué par le colonel, l'écuyer en chef, et par les sous-maîtres du cadre noir. C'est ainsi que je suis resté 4 ans à l'école de guerre.
Et comment se comportaient vos professeurs avec vous ? Parce que vous n'êtes pas pour eux, évidemment, un enfant tout à fait normal, comme les autres.
Ah si, mon père voulait que, avait dit à mes précepteurs de me considérer comme un enfant normal. C'est pas parce que j'étais prince héritier que j'avais beaucoup plus de facilité que les autres.
Sire, c'est alors que vous êtes en France que vous apprenez, je crois, la mort de votre père.
Oui, mon père est mort en 1925 et j'étais obligé de revenir pour les cérémonies d'obsèques de mon père. Et en même temps, lui succéder, c'est-à-dire être couronné vers 1926.
Vous devenez donc empereur. Est-ce que ce métier d'empereur, pour parler comme je crois un souverain français l'avait fait, vous a impressionné quand vous êtes devenu empereur d'Annam ?
Non, impressionné, non. C'est-à-dire, j'étais formé un peu pour faire ce métier. Il manquait que j'avais que 12 ans à l'époque. Et malgré tout, lorsque je me suis trouvé sur le trône et devant tous les mandarins, ce n'est pas du tout, pour moi, un jeu, c'était quelque chose de très sérieux.
Et que s'est-il passé après votre intronisation ?
Une fois intronisé, je suis reparti en France, suivant la volonté de mon père avant de mourir, c'est-à-dire que de continuer mes études. Et je suis revenu qu'en 1932, c'est-à-dire après 10 ans, j'ai passé en France. Justement, vous parliez d'assumer le métier d'empereur. Quand je suis revenu, j'étais plein d'ardeur. Je voulais, ayant appris pas mal de choses en Europe, je voulais, si vous voulez, gouverner et moderniser mon pays. À ce moment-là, je me suis aperçu que, depuis la mort de mon père, c'était l'administration française qui s'occupait de tout. J'étais là, si vous voulez, pour assumer les devoirs du Fils du Ciel, c'est-à-dire des cérémonies pour mes ancêtres, pour le ciel, mais politiquement, je n'avais rien à faire. C'est pourquoi je dis que je me suis retiré petit à petit des affaires et je vivais comme un empereur exilé dans son propre pays.
Quel sentiment éprouviez-vous pour la France, vous devenez l'empereur d'un pays qui n'est pas indépendant. Quel sentiment vous inspirez la France et les Français à ce moment-là, Sire ?
Il n'était pas question pour moi de me révolter. Le terme est un peu fort. Mais ayant vu que j'ai eu deux ancêtres qui se sont, pour dire le mot, révoltés contre l'administration française, qui ont fini l'un à La Réunion et l'autre en Algérie. Je voulais, vis-à-vis de mon peuple, de ne pas l'abandonner et d'accepter la situation qui m'était imposée.
Vous parlez, vous pensez déjà néanmoins à une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que vous êtes disposé à modifier les institutions même de l'ANAM.
Oui, j'étais bien disposé à le faire. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
Donc, vous revenez, vous découvrez, je crois, en 1932, vous découvrez l'histoire de votre pays, finalement, après avoir découvert la France, après avoir voyagé
dans le monde. Oui, car quand je suis revenu, je connaissais mal l'histoire de mon pays, surtout l'histoire de ma famille. Alors, j'ai demandé au service des archives de me donner toute l'histoire de mes ancêtres depuis les premiers, c'est-à-dire depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours.
Sire, pendant cette période, vous avez donc décidé, comme vous l'avez dit, de vivre en exil, en quelque sorte, dans votre propre pays. Et là, vous vous êtes donné aussi, non seulement à l'histoire de votre pays, mais aussi à beaucoup de sports. Vous semblez beaucoup les aimer, le tennis, le golf, la chasse, notamment. On vous a reproché souvent, vos détracteurs vous ont reproché, justement, de ne pas vous occuper suffisamment de votre peuple et de vous intéresser à des choses qui paraissaient plus futiles.
Bien sûr, et on m'a reproché de faire du sport, d'être à la chasse. Ceux qui me reprochaient ne s'en rendaient pas compte dans quelle situation je me trouvais, justement. Et ils ne se sont pas rendus compte également de toute la patience qu'il me fallait, justement. Car je vivais dans l'espoir qu'un jour, peut-être la France, la vraie France, si vous voulez, j'obtiendrai d'elle quelque chose de mieux que ce que nous avions jusqu'à présent. La Nam et le Tonkin étaient un protectorat, tandis que la Cochinchine était une colonie française. Peut-être que les Cochinchinois ont souffert du mépris, peut-être des Français vis-à-vis d'eux, tandis que dans le nord et dans le centre, c'est-à-dire sous le protectorat, les Français avaient pour nous, c'est-à-dire pour moi et pour tous ceux qui m'entouraient, c'est-à-dire les Mandarins, avaient quand même un certain respect.
Et est-ce que vous pensez, avant les événements qui vont se produire à l'occasion et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous pensez que la colonisation française, même si elle a des formes différentes dans les trois provinces, et s'il s'agit d'un protectorat au Tonkin et en Annam, est-ce que vous pensez qu'elle a laissé des choses positives pour votre pays?
Bien sûr, on peut reprocher certaines choses. C'est-à-dire, pour nous, manque de liberté, manque d'initiative. Mais il faut bien reconnaître que la France a fait beaucoup pour le pays. Et prenons l'exemple que des instituts Pasteur, par exemple, qui se sont installés. Il y a eu tous les grands savants de Pasteur qui étaient venus, comme le docteur Yersin, même Calmette. C'est dans notre pays qu'ils ont mis au point pas mal de vaccins et qui allait sauver pas mal de monde.
Mémoire du siècle, Bao Dai, ancien empereur d'Annam.
Sire, en 1940, la France perd la bataille de France, sinon la guerre. Est-ce que vous avez été troublé par cette défaite de 1940 dont on dit qu'elle a encouragé le nationalisme vietnamien?
Quand nous avons vu cette défaite, la France, nous avons souffert pour la France, justement. Et devant le malheur qui a frappé la France, nous avons pu nous révolter, en quelque sorte. Pas du tout. Nous avons combattu aux souffrances des Français, justement. Et nous l'avons fait, peut-être avec un peu d'égoïsme, en espérant qu'au retour, la France reconnaîtrait notre attitude.
De ce point de vue-là, je pense que vous avez été quand même assez déçu. Quelles choses ont changé du fait de l'occupation japonaise acceptée par le général Catroux, puis l'amiral De Gaulle, qui ne disposait pas de forces suffisantes pour l'empêcher? Est-ce que vous-même, vous en avez gardé des souvenirs de cette occupation?
Cette occupation japonaise n'a pas touché beaucoup la vie des Vietnamiens. C'est-à-dire, ce qui s'est passé entre les Japonais et les Français à l'époque, on me tenait simplement au courant, tandis que la présence japonaise, pour nous, Vietnamiens, n'était pas du tout gênante à cette époque-là. Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai appris, le Mikado avait promis au maréchal Pétain de maintenir la souveraineté française en Indochine.
et c'était une espèce d'échange de bons procédés, puisque c'est effectivement un des seuls pays où, en Asie, je crois, on ait maintenu la souveraineté d'une puissance coloniale, puisque les Japonais arrivaient ailleurs en proposant effectivement parfois, en encourageant les mouvements d'indépendance. Sire, c'est à la fin de la guerre que les Japonais font un véritable coup de force anti-français le 9 mars. Comment avez-vous appris ce coup de force ?
La veille du 9 mars, j'étais dans ma réserve de chasse. Et lorsque je suis revenu dans mon palais, j'ai vu la ville de Hue occupée par des troupes japonaises. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Lorsqu'un officier japonais se présente devant moi et m'a demandé d'attendre avant de rentrer au palais que tout se calme. Je n'ai même pas posé les conditions. Je n'ai même pas voulu savoir pourquoi ce qu'il faisait là et pourquoi il était là. Et au bout d'un moment, il m'a accompagné dans mon palais et il m'a dit, demain, un personnage haut placé viendra demander une audience auprès de votre majesté. C'est ainsi que le lendemain, j'ai reçu son excellence Yokohama, qui s'est présenté à moi comme ambassadeur extraordinaire, envoyé par le Mikado auprès de moi. C'est le premier contact que j'ai eu avec les Japonais.
Et les Japonais, à ce moment-là, vous proposent effectivement d'être le souverain d'un Vietnam indépendant. Cela s'est passé de quelle manière ?
C'est-à-dire, après avoir présenté ses lettres de créance, quelques jours après, l'ambassadeur est venu me voir en disant, voilà, au nom du Mikado, nous voulons octroyer l'indépendance à votre pays. J'ai demandé, c'était une indépendance, vous nous l'octroyez, mais qu'est-ce que vous demandez en contrepartie ? Et il m'a dit rien. Alors c'est à ce moment-là que j'ai convoqué le conseil des ministres. C'était la première fois que je présidais, puisque autrefois c'était le résident supérieur qui présidait le conseil des ministres chez moi. Et j'aurais proposé, si vous voulez bien, signer avec moi cet acte d'indépendance. Et que chacun me dise son opinion. Alors tous m'ont dit, on ne sait pas ce que vaut cette indépendance, mais si vous la refusez, votre peuple vous la reprochera toujours. C'est pourquoi j'ai signé l'acte d'indépendance.
Vu la situation mondiale, et celle de l'Asie en particulier, le gouvernement du Vietnam proclame publiquement qu'à dater de ce jour, le traité de protectorat avec la France est aboli et que le pays reprend ses droits à l'indépendance. Le Vietnam s'efforcera, par ses propres moyens, de se développer pour mériter la condition d'un État indépendant. Aussi, le gouvernement du Vietnam fait une confiance à la loyauté du Japon et est-il déterminé à collaborer avec ce pays pour atteindre le but précité. Respect à ceci. Hue, 27e jour du premier mois de la 20e année Bao Dai, 11 mars 1945, Bao Dai.
Vous saviez bien entendu, Sire, qu'à l'époque, le Japon était sur le point de perdre la guerre et les risques que cela impliquait pour vous-même d'ailleurs.
Oui, nous savions que le Japon à l'époque était dans une mauvaise situation. Et c'est pourquoi je me méfiais de cette indépendance et je me demandais si jamais le Japon perdait la guerre, que deviendrait la situation de mon pays vis-à-vis de Victoria.
Le Japon, donc, le 16 août, annonce qu'il va capituler. Je suppose que cela a provoqué un choc dans toute l'Asie, dans le monde entier. Cela signifiait la fin de la guerre. Pour vous-même, comment avez-vous appris cette annonce japonaise ?
Eh bien, je l'ai appris par l'ambassadeur qui était auprès de moi et qui était venu se présenter ses adieux. Il a dit, maintenant c'est fini pour nous. Maintenant c'est à vous de vous entendre avec les alliés pour essayer de concrétiser cette indépendance que nous avons octroyée. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé des messages au général de Gaulle, au roi d'Angleterre, au président des États-Unis et même au maréchal Chiang Kai-shek pour indiquer la situation de notre pays et les aspirations de notre peuple.
Message, je crois, d'ailleurs, auquel dont certains n'en ont reçu.
Personne ne m'a répondu.
Personne ne vous a répondu. Non.
Si personne ne répond à Bao Dai, c'est qu'en août 1945, lorsque les Japonais capitulent, aux yeux des vainqueurs, l'empereur du Vietnam s'est discrédité par les liens qu'il a entretenus avec l'empereur du Japon. Or, les troupes du Mikado se trouvent encore au Vietnam en attendant l'arrivée des Alliés. Les accords de Potsdam de juillet 1945 ont en effet prévu l'occupation du Vietnam par les Chinois et par les Anglais, qui devront recueillir la reddition de l'armée japonaise. Mais ils n'arriveront qu'en septembre. Profitant du vide politique provoqué par la capitulation du Japon, Ho Chi Minh, qui en 1941 a créé un front pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, s'apprête lui aussi à proclamer l'indépendance de son pays et demande à Bao Dai de renoncer à un pouvoir que les Japonais lui ont donné 5 mois plus tôt.
J'ai reçu de la part de représentants de toute tendance politique un télégramme me demandant de faire un geste pour le pays. Je voyais que dans l'esprit de mes compatriotes, ils voulaient une révolution. Pour eux, s'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution, justement. La révolution, je ne voyais pas comment ils voulaient la faire. Alors j'aurais dit, vous voulez faire une révolution? Eh bien moi, je vais vous la faire, la révolution. C'est ainsi que je suis parti. Et laisser ma place à un nouveau régime.
Nous ne pouvons nous garder d'un certain sentiment de mélancolie à la pensée de nos glorieux ancêtres qui ont lutté sans répit pendant 400 ans pour arrondir notre pays de Trois Noirs jusqu'à Hà Tiên. Nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver un certain regret à la pensée de nos 20 ans de règne durant lesquels nous avons été dans l'impossibilité de rendre aucun service appréciable à notre pays. Malgré cela, et fort dans nos convictions, nous avons décidé d'appliquer et nous passons le pouvoir au gouvernement républicain et démocratique. Quant à nous, durant 20 années de règne, nous avons connu bien des amertumes. Dorénavant, nous sommes heureux d'être un citoyen libre dans un pays indépendant. Vive l'indépendance du Vietnam. Vive notre République démocratique. Hue Palais Kinh Trung, le 25 août 1945. Signé Bao Dai.
Sire, en septembre 1945, vous vous rendez à Hanoï et c'est là que vous rencontrez Ho Chi Minh. Quelle impression vous a-t-il fait?
Ho Chi Minh était arrivé à Hanoï. Je ne savais même pas qui était Ho Chi Minh. Et on m'a appris que Ho Chi Minh pouvait former un gouvernement puisqu'il était l'allié des Américains. Et il pouvait obtenir beaucoup plus que moi l'indépendance pour notre pays. Je ne voyais pas d'inconvénient. J'ai reçu donc les envoyés de Ho Chi Minh. Je leur ai remis les attributs du gouvernement. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé d'aller à Hanoï, car le président Ho Chi Minh voudrait me rencontrer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Hanoï vers le mois de septembre 1945.
Oui, parce que vous devenez à ce moment-là, sire, le citoyen Vinh Thuy.
Oui, et c'est au cours d'une une proclamation que j'ai dit que je préfère être un simple citoyen dans un pays libre qu'un souverain d'un pays occupé. Et quand je suis arrivé à Hanoï, je suis allé au palais qui servait de siège au gouvernement, et j'ai vu un vieux monsieur habillé avec un short, avec des savates aux pieds. J'ai demandé qui était cette. On m'a dit, c'est lui, Ho Chi Minh. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est présenté à moi. Avec beaucoup de respect, d'ailleurs. Et le soir même, il m'a invité à dîner. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé si je voulais devenir son conseiller, et même son, le conseiller suprême de son gouvernement.
Et alors vous avez accepté, mais pour l'empereur d'Annam, participer à un gouvernement dominé par, par le parti communiste, par les communistes, par le...
À l'époque, je ne savais pas qu'il était communiste. C'est longtemps après que j'ai appris qu'il était communiste.
Comment se passait le conseil des ministres de ce gouvernement?
J'assistais au conseil des ministres. Ça m'a bien amusé, car je me suis aperçu que tous ces hommes qui formaient le gouvernement étaient peut-être de bons révolutionnaires, mais de très mauvais hommes d'État. Ils n'y entendaient absolument rien. C'est pourquoi souvent ils demandaient mon avis. Et là-dessus arrivent les Chinois, dont vous parlez, puisque d'après les conventions, c'est la moitié du Vietnam était occupée par les Chinois et l'autre partie par les Anglais. Et c'est comme ça que j'ai vu arriver tous les Chinois, c'est-à-dire l'armée chinoise, chez nous pour désarmer les Japonais.
L'adversaire séculaire du Vietnam. Quel était le comportement des Chinois dans le Nord?
Ils étaient arrivés comme en maître absolu. C'était, si vous voulez, l'armée chinoise qui est arrivée était au départ bourrée de faim. Et quand ils sont arrivés chez nous, ils sont morts d'avoir trop mangé, justement.
Le pillage, etc. Je crois que c'était assez courant, non?
Il n'y a pas eu trop de pillage, mais ils ont occupé tous les plus beaux bâtiments de Hanoï. Et il faisait la pluie beau temps. Et Ho Chi Minh était très ennuyé, justement, par cette présence chinoise.
Est-ce que vous pensez, Sire, que c'est en partie précisément pour se débarrasser des Chinois qu'il a commencé à entreprendre des négociations avec les Français?
Ho Chi Minh avait peur de la mainmise chinoise. Et il préférait s'entendre avec les Français. D'autant plus que la France avait envoyé Saint-Denis, qui était venu comme haut-commissaire de la France. Et il s'était dit, il m'avait dit à moi qu'il vaut mieux avoir les Français pour un bout de temps que d'avoir les Chinois pour toute la vie.
Et c'est la raison des accords du 6 mars.
Et c'est la raison pourquoi Ho Chi Minh a voulu entamer des accords avec la France. Et avant d'entamer des accords avec la France, je sentais qu'il se trouvait en mauvaise position. C'est pourquoi, un jour, il m'a demandé de prendre sa place. C'est-à-dire que lui s'en irait et qu'il me céderait la présidence de la République. Alors je lui ai demandé si son désir était sérieux ou bien si c'est une comédie de sa part. Il ne m'a dit pas du tout. Je vous cède ma place parce que je suis trop rouge et je n'ai pas la confiance des alliés. Alors c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec mes anciens collaborateurs pour former un gouvernement provisoire. Et c'est dans la journée même qu'il m'a rappelé au Timmy en disant: écoutez, j'ai eu un moment de faiblesse, voulez-vous ne pas m'en vouloir, car c'est pas dans les moments difficiles qu'il faut déserter. Alors je lui dis, mais je ne demande pas mieux que vous continuiez à exercer votre métier, et moi je suis là, je vous donnerai tous les conseils que je pourrais, si je peux vous être utile. Et c'est comme ça que nous avons préparé les accords du 6 mars qu'il avait signé avec Saint-Denis.
Mémoire du siècle, Bao Dai. Par les accords du 6 mars 1946, signés entre Jean Saint-Denis et Ho Chi Minh, la France reconnaît la République démocratique du Vietnam comme un État libre, membre de l'Union française. En échange, Ho Chi Minh accepte le retour des troupes françaises du général Leclerc dans le nord du pays. Accord plein d'arrière-pensée. Pour le haut-commissaire en Indochine, l'amiral Thierry d'Argentlieu, les accords du 6 mars ne sont que le moyen de reprendre le contrôle de l'Indochine. Et il n'hésite pas à les violer en favorisant, comme avant la guerre, l'éclatement du Vietnam. Dans le sud du pays, il crée un gouvernement de Cochinchine indépendant de celui de Ho Chi Minh, qui proteste en vain contre la division de son pays. C'est ce qui fait échouer les négociations de Fontainebleau et provoque, fin 46, le début de la guerre d'Indochine. Rompant les ponts avec Ho Chi Minh, la France se tourne alors vers Bao Dai, qui a quitté le gouvernement Ho Chi Minh et s'est exilé à Hong Kong. Le haut-commissaire Bollaert entreprend avec l'ancien empereur des négociations interminables qui se terminent en 48 et 49 par les accords de la baie d'Along qui mettent sur pied un État vietnamien non communiste gouverné par Bao Dai.
Puisque la France est venue me trouver, c'était pour moi une occasion de non seulement de demander l'indépendance, mais de demander la Cochinchine, qui était devenue non seulement une colonie française, mais un département français. C'était mon vœu le plus absolu, c'est-à-dire de vouloir reprendre la Cochinchine que mes ancêtres avaient perdue vers le 1860, par là. Et là, pour avoir ces Cochinchines, j'ai fait appel à ceux qui dirigeaient la République de Cochinchine créée par l'amiral Thierry d'Argentlieu. C'était le général Tsun. Et lui-même était venu me voir et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette République de Cochinchine et de faire partie intégrante du Vietnam? Le général Tsun et tous ses membres du gouvernement étaient tout à fait prêts. Alors je dis à ce moment-là, je expose mon cas, la rencontre que j'ai avec M. Bollaert. Je lui ai dit, puisque vous acceptez de collaborer avec moi, je souhaiterais que vous formiez un gouvernement qui sera le premier gouvernement des trois pays, c'est-à-dire du Tonkin, de la Nam et de la Cochinchine. Il a accepté et j'ai voulu le faire d'une manière démocratique, c'est-à-dire il y avait à Hong Kong tous les représentants de pas mal de partis politiques vietnamiens. Ils se sont réunis et ils ont élu le général Tsun comme président du gouvernement provisoire. Et c'est ainsi que j'ai dit à M. Bollaert, maintenant vous pouvez signer avec le Tsun le protocole, la déclaration, tout ce que vous voulez. Il a pris ça de mauvais côté, ne pouvant pas me refuser. Et nous voilà partis pour la baie d'Along une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là, c'est Tsun qui a signé la déclaration et le protocole.
Après les accords de la baie d'Along, vous devenez donc chef d'État d'un Vietnam dont l'indépendance est reconnue par la France, mais où l'armée française continue de se battre contre le Viet Minh. Or, en 1950, celui-ci inflige à l'armée française une défaite très grave à Cao Bang, un véritable désastre au lendemain duquel arrive au Vietnam un nouveau commandant en chef qui va renverser la situation, le général Delattre. Quels étaient vos rapports avec lui?
À vrai dire, les premiers rapports ont été assez froids. Car je n'étais pas assez young quand Delattre est arrivé. Parce qu'il pensait que je serais là pour l'accueillir, justement. Et j'ai montré quand même qu'il y a une différence entre le haut-commissaire de France et le chef d'État du gouvernement vietnamien. C'est pourquoi les premiers mois ont été assez froids entre lui et moi. Jusqu'au jour où j'ai pu parler franchement avec le général Delattre. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Delattre, écoutez, si vous voulez mener à bien votre guerre, il faut nous aider, c'est-à-dire nous aider à former une armée nationale. Car ce n'est pas un Français venant de Bretagne ou d'Alsace qui peut reconnaître dans un village quel est celui qui est communiste ou celui qui ne l'est pas. Et c'est ainsi que de Latte, ayant compris, il a mis tout son cœur pour former cette armée que je demandais depuis des années. Il a fait même mieux. Lorsque les premiers bataillons vietnamiens ont été créés, il m'a donné son fils pour servir dans un de mes bataillons. Et malheureusement, le pauvre Bernard a été tué à la première sortie.
Il s'est confié à vous à plusieurs reprises, et notamment à l'occasion de la mort de son fils, Bernard Delattre.
Oui, j'ai senti à ce moment-là, parce que après, avec le général Delattre, nous étions en communauté d'idées et de pensées. Et à la mort de son fils, j'avais l'impression qu'il a souffert, beaucoup, et qu'il a apporté cette affection de son fils sur moi, ce qui m'a beaucoup touché, justement. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour me soutenir et pour non seulement créer mon armée, mais trouver les moyens pour former cette armée. C'est comme ça qu'il est parti en Amérique demander l'aide à l'Amérique pour nous, justement.
Et vous-même, que pensiez-vous de l'homme de Latre? On dit qu'il était capable, éventuellement, de renverser la situation.
Je regretterai toujours sa mort, parce que peut-être de Latre vivant, on n'aurait pas eu de même fou.
Est-ce que vous pensez, Sire, que la France se battait à l'époque, donc à cette époque-là, en 1950, après les accords qu'elle a signés avec vous, qu'elle se battait pour le Vietnam et pas pour elle, ou est-ce que c'était une guerre coloniale en définitive?
Ah oui, je me suis bien rendu compte que à ce moment-là, cette armée qui se battait ne se battait pas pour essayer de reconquérir le pays. Il se battait, si vous voulez, pour nous éviter d'être tombés dans une idéologie, c'est-à-dire pour nous écarter le communisme, justement.
Mais comment expliquez-vous qu'il y ait encore, à ce moment-là, beaucoup de Vietnamiens qui se battent dans les rangs du Viet Minh?
Ben, ils ont été trompés par la propagande Viet Minh. Là, on leur a dit, vous battez pour l'indépendance de votre pays, pour chasser l'envahisseur. Et on n'a jamais dit la vérité à ces pauvres Vietnamiens. Et puis aussi, ils ont été enrôlés de force.
En 1952, la France semble toujours hésiter, osciller entre deux politiques, le gouvernement de l'époque, et en même temps qu'elle continue à entretenir de bons rapports avec vous, vous êtes au courant, je crois, de négociations secrètes qu'elle entreprend avec le Viet Minh.
C'est-à-dire, il y a eu des contacts secrets. Tout en étant secret, j'étais au courant de tout ce qui s'est passé. Et puis ils se sont aperçus que ces contacts secrets n'avaient rien donné. Et la France voulait mettre fin à cette guerre d'Indochine. Mettre fin de quelle manière? C'est à ce moment-là que le président Bidault m'a mis au courant qu'il y aura peut-être une conférence au sommet pour discuter de quelle manière on peut mettre fin à cette guerre. C'est à ce moment-là que Bidault m'a dit qu'il y aura une conférence. Ils se sont mis d'accord avec les puissances, c'est-à-dire l'Amérique, l'Angleterre, la Russie, la Chine, pour faire une conférence à Genève, en vue de mettre fin à la guerre d'Indochine. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon pays pour aller à Genève. Et le président Bidault m'a même écrit une lettre en disant « Ne vous inquiétez pas, on ne touchera pas à l'intégrité de votre territoire. » La confiance, je suis arrivé à Genève. À ce moment-là, c'était le prince Bouloc qui était mon président du conseil. Et il avait formé une délégation pour aller à Genève. À cette époque-là, le gouvernement Daniel a été mis en minorité, et c'est Mondeson qui a été présenté pour former le nouveau gouvernement. Alors l'attitude de Mondeson, c'est-à-dire, il a fait son fameux pari, si vous vous en souvenez, qu'il obtiendrait la paix dans les jours qui viennent. Et pour obtenir la paix, il fallait couper le pays en deux. C'est à ce moment-là que je n'étais plus du tout d'accord, et j'ai retiré ma délégation. Car cette conférence qui était au départ une conférence politique, ils ont tourné en conférence militaire. C'est-à-dire, c'est une affaire entre les militaires français et les militaires birmanes.
Oui, mais entre-temps, la France avait perdu le 7 mai 54 la bataille de Dien Bien Phu. C'était un camp retranché, je rappelle, qui a été créé fin 53 par le commandant en chef de l'époque, le général Navarre, qui était, je crois, persuadé d'y remporter à Dien Bien Phu une victoire militaire sur le Viet Minh.
J'étais avec Navarre lorsqu'il a choisi ce camp du Dien Bien Phu. Le but jusqu'à présent, l'armée birmane était une armée fantôme, on ne la voyait jamais. Pour une fois, Navarre m'a dit, j'ai devant moi trois divisions Viet, et ainsi je pourrais casser du Viet, c'était le mot à la mode à l'époque. Alors j'étais voir Dien Bien Phu, je me suis dit, j'ai dit à Navarre, mais vous êtes dans un trou, dans une cuvette, ce sont les autres qui vont vous tirer dessus. Comment pouvez-vous résister ? Il m'a dit, non, nous craignons rien, car nous avons beaucoup de munitions. Et à ce moment-là, j'ai même demandé à Navarre que mon armée participe à la défense de Dien Bien Phu. Navarre m'a répondu, c'est une affaire française. Et c'est le dernier règlement de compte des Français avec les communistes, birmanes. C'est après, on vous passe la main. Et voilà comment je n'ai pas eu l'honneur de participer avec mon armée à Dien Bien Phu.
Ce qui prouve quand même, Sire, que quand Navarre vous dit cela, c'est que la souveraineté que la France, a fini par accorder à l'Indochine est tout de même très limitée, puisqu'elle y mène une guerre sans tenir compte de vos avis.
Ah oui, c'est à ce moment-là, oui. Tout le monde reconnaissait qu'il y avait une souveraineté vietnamienne.
Lorsque vous avez appris, Sire, les accords de Genève, quelles réflexions vous ont inspiré ces accords et cet échec à la fois pour la France, pour vous-même aussi, puisque votre pays a été divisé en deux. Cette guerre d'Indochine qui se termine, qu'est-ce que...
Alors pour moi, c'était une grosse déception. Parce que je ne pensais pas qu'on arrivait à abandonner aussi facilement une entreprise qui a coûté cher à tout le monde. D'ailleurs, dans cette conférence de Genève, nous étions les trois grands perdants, c'est-à-dire la France, moi, et un peu l'Amérique, qui déjà commençait à nous aider.
Comment expliquez-vous la victoire de Ho Chi Minh ?
C'est une victoire qu'on lui a offert sur un plateau, à mon avis. Parce que le fait de perdre Dien Bien Phu ne veut pas dire qu'on a tout perdu.
Les accords de Genève sont donc signés, et vous êtes à ce moment-là en Europe, non loin de Genève, où vous avez retiré votre délégation. Vous ne saviez pas, à l'époque, que vous ne rentreriez jamais au Vietnam.
Si, je le savais, parce que quand on a décidé de couper mon pays en deux, j'ai dit à tous mes alliés, pour dire le mot, que je ne rentrerai plus au Vietnam. C'est-à-dire, ou je suis le maître du nord au sud, ou je suis rien. Parce que je ne veux pas être soit l'empereur, soit le chef d'État d'un pays tronqué. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Bouloc de quitter son poste de président du Conseil, et j'ai nommé Ngô Đình Diệm à cette époque-là. Pourquoi Ngô Đình Diệm ? Parce que Ngô Đình Diệm était un catholique fervent, sectaire même, et contre l'idéologie communiste, il fallait une autre aussi puissante, et ça ne pouvait être que le catholicisme. Quand je l'ai appelé, il était en Amérique. Et quand il a accepté d'être président du conseil à ce moment-là. Il est revenu et les Américains ont profité de sa présence à ma place pour venir petit à petit mettre pied, si vous voulez, dans la partie du Vietnam Sud. Mmh. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure américaine.
Vous avez donc quitté votre pays en 1954, à la veille, au moment, au début des accords de Genève, et vous vivez depuis 36 ans en exil en France. Cette vie d'exilé que vous avez d'ailleurs déjà connue, d'exilé dans votre pays dans les années 30 et puis d'exilé en dehors de votre pays doit être assez éprouvante. Comment est-elle cette vie d'exilé?
Mais le mot d'exil n'est pas juste. C'est-à-dire je me suis retiré en France. J'aurais pu aller en Suisse, aller en Espagne, aller n'importe où. Pourquoi la France? Parce que la France est un pays que je connais bien, que j'aime bien, et que j'ai passé des années merveilleuses de mon enfance. C'est pourquoi je me suis retiré en France. Et vivant maintenant, très simplement, très librement, comme j'ai tout mon temps, ce qui me permet de visiter pas mal de pays, comme j'aime beaucoup la musique, je vais souvent dans les concerts, je vais au théâtre, je vois des amis. Et c'est comme ça que je continue à vivre.
Baudai, je crois, veut dire...
Baudai, c'est un nom que j'ai choisi quand j'avais 12 ans. Ça veut dire conservateur de la grandeur. Et j'espère qu'un jour, cette grandeur finira par venir dans mon pays.
Votre pays vous manque, je suppose?
Comment voulez-vous que le pays de ses ancêtres ne vous manque pas? Parce que j'ai bien sûr la nostalgie de mon pays. Et surtout, je souffre de voir combien mon peuple est malheureux actuellement.
Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre pays?
C'est d'abord mon peuple. Et puis, les souvenirs de mes ancêtres.
Vous étiez le défenseur de la grandeur, ce que signifie Baudai. Vous avez été aussi le souverain du pays qui a connu sans doute une des guerres les plus éprouvantes, en tout cas la plus longue de ce siècle. Aujourd'hui, c'est un pays qui connaît des difficultés, surtout matérielles. Quel est votre avis, l'avenir du Vietnam? Comment le voyez-vous?
L'avenir, il m'est difficile de vous le dire. Je n'ai pas le don de voyance. Mais tout ce que je peux faire, c'est d'émettre un vœu. C'est que ce pays, un jour, change de système de gouvernement pour permettre à mon peuple de trouver un peu de liberté et de vivre un peu dignement. C'est le dernier souhait que j'émets.
Mémoire du siècle, Sa Majesté Bao Dai, ancien empereur d'Annam. Texte lu par Zong Van Quang et Nguyen Huy Quang. Mixage, Édouard Campras. Réalisation, Didier Lagarde. Une émission de Patrice Gélinet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 août 1991.